Inside Trump, une enquête BFM TV, racontée par Marie Peraube. Épisode 1, la maison folle.
Elle est l'objet de tous les fantasmes. Le pouls du pouvoir américain. La Maison Blanche se dresse au cœur de Washington, immuable depuis 1800. Le bureau ovale a vu passer 14 présidents depuis Franklin Roosevelt. C'est là qu'ont été prises la plupart des décisions qui ont changé le monde. Dès son arrivée, Donald Trump imprime son style grandiloquent, mais aussi décalé.
Et je me suis dit, il faut les mettre dans le bureau ovale. La Maison Blanche est spéciale, mais le bureau ovale encore plus. Vous voyez, ça, ce sont des téléphones, des lignes sécurisées, mais ce qui fait peur, c'est ce bouton rouge. Je peux vous faire monter un Coca ou un Pepsi.
Le président utilise ce bouton compulsivement. Anthony Scaramucci, son ancien directeur de la communication, l'a vu commander des dizaines de Coca Light par jour.
Oui, il y a une petite boîte en noyer avec un émetteur radio à l'intérieur. Et le président, il appuie dessus pour appeler le personnel de la Maison Blanche.
Donald Trump a surtout changé radicalement l'esprit du bureau ovale. Allergique à la bureaucratie, il est extrêmement accessible. Il aime travailler dans le bruit, entouré d'un staff éclectique. Une cour qui fourmille autour de lui, un défilé de subalternes qui rôdent parfois sans idée précise. David Shulkin a vécu pendant 13 mois dans ce bureau. Il le connaît par cœur.
Le président Trump adore le bureau ovale. Et contrairement à de nombreux présidents qui le réservaient aux invités VIP, il aime y être. Quand j'étais là-bas, les gens mettaient leurs pieds sur les chaises et se vautraient sur les canapés, et ça ne le dérangeait pas.
Gérard Araud a été l'ambassadeur de France aux États-Unis.
Tout le monde rentre dans le bureau de Trump quand les gens le veulent. Mais ça, c'est normal, parce que Trump a été élu à 70 ans, et toute sa vie, il a dirigé une petite entreprise. Et lui, il arrive à la Maison-Blanche, et il gouverne les États-Unis comme il gouvernait l'organisation Trump.
Mark Fisher est le biographe de Donald Trump.
Il ne connaît personne. C'est le premier président américain à n'avoir jamais fait de politique ou de carrière militaire. Donc il n'a aucun allié, aucun conseiller sur qui compter, contrairement à tous les anciens présidents.
Isolé, sans réseau politique, il va gouverner avec des personnes totalement iconoclastes.
I state your full name.
I, James
Madison.
Do solemnly swear.
Il choisit d'abord des membres de sa famille. Jared Kushner, son gendre, qui travaille dans l'immobilier, devient haut conseiller. Une mannequin de 28 ans, Hope Hicks, est nommée directrice de la communication. Et le controversé Steve Bannon, patron d'un journal d'extrême droite, qui avait toujours cru en lui.
Quand j'ai été nommé directeur de sa campagne, il était à 10, 12, 14, 16 points en fonction des sondages. Et à l'époque, je lui ai dit, si je te suis, c'est parce que je suis sûr à 100% que tu vas gagner.
C'est une équipe incroyable. Et si ce n'est pas le cas, je vous le ferai savoir. C'est la mauvaise nouvelle. Vous serez au courant s'ils ne font pas leur travail. Je chanterai leur louange s'ils font du bon boulot, mais si ce n'est pas le cas, vous le saurez. Mais ils vont faire un travail fantastique. Je suis si fier d'eux. Je les connais tellement bien.
Et pour faire partie de l'affiche, il a fallu convaincre. Les anciens mousquetaires de son gouvernement que nous avons retrouvés racontent tous un premier contact saugrenu. Il faut séduire le patron, avoir le plus de bagout possible. Sébastien Gorka se souvient du jour où Donald Trump l'a propulsé stratège de la Maison Blanche.
J'avais rendez-vous à la Trump Tower. J'étais assis en face du président, aussi proche que vous et moi. Et on a eu une conversation incroyable. La sécurité nationale, la guerre civile, Daesh. Et typique de Trump, au milieu de la conversation, il s'arrête, il regarde l'un de ses conseillers et il dit « J'adore cet homme, on l'embauche !»
Il recrute à l'instinct, se soucie peu des CV. C'était déjà sa méthode au temps des affaires. Barbara Hess a été l'architecte de la Trump Tower. Elle a travaillé à ses côtés pendant 18 ans. Elle a encore en tête ses mots chocs lors de son entretien.
Quand il m'a embauché, il m'a dit « Vous êtes une tueuse, et c'est ça qu'il veut. » Il m'a dit aussi « Les hommes sont meilleurs que les femmes, mais une femme exceptionnelle vaut mieux que 10 hommes brillants. »
Un homme qui aime qu'on le surprenne, mais qui, sous ses allures intraitables, est en fait très influençable. C'est la loi du plus fort qui l'emporte. Ceux qui l'ont conseillé dans l'ombre nous racontent les coulisses d'une prise de décision historique. Steve Bannon était son conseiller stratégique.
Le président Trump n'aime pas que tout le monde pense la même chose. Il veut des conseillers différents et il aime les débats houleux et surtout que le meilleur gagne.
Sébastien Gorka, un ancien stratège de la Maison-Blanche.
Un jour, il nous fait venir, Steve et moi, dans le bureau ovale. Tout le monde était là. Et il nous a dit, « Ok les gars, on fait quoi à propos de l'Iran? Je veux me retirer de l'accord nucléaire, mais vous devez me convaincre. » Steve et moi, on a défendu notre position. Pour nous, c'était financer le terrorisme, il fallait arrêter ça. Et tout le monde a dit, « Ne faites pas ça, les gouvernements européens ne seront pas d'accord. » Trump, lui, il voulait voir un combat de coq. Steve et moi, on a gagné. Le mois d'après, il s'est retiré de l'accord.
En quelques minutes, il met fin à tout un processus négocié depuis 5 ans par Barack Obama et les pays européens.
Je vous annonce aujourd'hui que les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer un mémorandum présidentiel pour remettre en vigueur les sanctions américaines envers le régime iranien.
Pour convaincre Donald Trump, il y a un certain nombre de règles à connaître, car il a une manière de travailler très différente des autres présidents. Mark Fisher, biographe de Donald Trump.
Il nous a prévenu dès le début. Je n'écouterai aucun briefing, je ne lirai aucun compte-rendu. Il disait, les gens peuvent venir me parler pendant 20 secondes et je saurai au fond de mes tripes quoi faire. La plupart des gens qui l'entendent ne comprennent pas ça, ils essayent de lui fournir des détails parce qu'ils font comme si c'était un homme politique. Mais ce n'en est pas un. C'est un enfant de 7 ans.
Justin Frank est psychiatre, il est aussi l'auteur de Trump sur le divan.
Il est très immature. Son esprit est assez chaotique, donc il classe les choses de façon binaire. Oui ou non. Tout ce qui n'entre pas dans cette organisation provoque chez lui de l'anxiété. Au bout du compte, il n'arrive même plus à comprendre les idées complexes.
Le président a besoin pour trancher qu'on lui fasse des récits imagés. Anthony Scaramucci avait une recette très personnelle pour l'obliger à l'écouter.
Il faut lui dire les choses presque par hasard, à travers un récit. Vous ne pouvez pas lui dire, voilà, il y a eu un schisme religieux quelque part, non. Il faut lui dire, tu te souviens du film Lawrence d'Arabie? C'était un film génial, je vais te raconter ce qui se passe dans ce film. Et là, vous pouvez lui fournir des informations.
Le faire rire, le prendre par la main, comme le rapport Kanye West. Mais la clé ultime pour le convaincre, c'est d'être là au bon moment. Mark Fisher est le biographe de Donald Trump.
Il faut simplement être le dernier à quitter la pièce. Il faut juste rester là, alors tout le monde lui dit « il faut faire ci, il faut faire ça ». Rien de tout ça ne compte. Mais une fois la nuit tombée, quand il ne reste que vous, vous dites « Vous savez, si on fait ça, ce serait bien. » Et là, il répond « Ouais,
et il écoute la dernière personne qui a parlé.
Et souvent, les derniers dans la pièce sont ceux qui ont un accès permanent au roi Soleil, les membres de sa famille. Jared Kushner, son gendre, et sa fille Ivanka sont devenus au fil des ans les plus puissants conseillers. Ils ont évincé tous les autres. Alors que le président est farouchement opposé à une intervention en Syrie, un soir, c'est elle qui va faire basculer son jugement. Gérard Araud, ambassadeur de France aux États-Unis.
Il ne voulait pas y aller parce que c'est un isolationniste qui n'était pas favorable à une intervention militaire et sa fille, sur la base de photos, a réussi à l'émouvoir.
Des images cruelles où l'on voit des enfants syriens morts d'agonie après avoir inhalé du gaz sarin envoyé par Bachar al-Assad. Dans la nuit, du 13 au 14 avril 2018, il procède à des frappes en coordination avec la France et le Royaume-Uni.
Il a frappé, mais il est resté Trump, c'est-à-dire qu'ensuite, il n'y a pas eu de suite. Il s'en tient là. Il prend des décisions à chaud, mais qui ne s'inscrivent pas dans une stratégie. Il n'y a pas de stratège dans l'avion.
Un président qui préfère suivre ses intuitions plutôt que les experts. Début 2020, quand le coronavirus s'abat sur les États-Unis, il minimise la gravité de la situation. Pendant des mois, il refuse ostensiblement de porter un masque, un signe pour lui de grande faiblesse.
Je ne me vois pas recevoir des chefs d'État avec un masque.
Quand le bilan dépasse les 150 000 morts, il finit par dire l'inverse.
Ce que je fais actuellement, c'est que, quand j'en ai besoin, je porte mon masque. Quand j'ai fait ma visite à l'hôpital l'autre jour, je portais ce masque. Et je continuerai à l'utiliser, pas de problème avec ça. Et je le dis, si vous le pouvez, utilisez le masque. Quand vous le pouvez, utilisez le masque. Si vous êtes proches les uns des autres dans un groupe, je le mettrai.
Un chef d'État versatile, qui choisit de mener sa barque comme il l'entend, à l'opposé de tous les usages. Même son emploi du temps n'a rien de celui d'un président.
Retrouvez tous les épisodes d'Inside Trump, l'enquête sur l'appli BFM TV, sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.